Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Ryan Nézard, porte-parole de Cédric Villani, candidat aux élections municipales à Paris. Bonsoir.
Bonsoir Loïc Barrière.
Alors, avant d'aborder les dossiers parisiens, quelques questions sur l'actualité nationale. Des trains perturbés pendant 3 jours suite à un droit de retrait des agents de la SNCF. Est-ce que vous pensez que ce mouvement social était justifié, Ryan Nézard ?
Écoutez, aujourd'hui, on connaît le droit qui concerne la SNCF, la fonction publique, il y a le droit de grève et il y a en effet le droit de retrait. Le droit de retrait, aujourd'hui, il s'exerce lorsqu'il y a un danger grave et imminent. Les juristes le diront, mais manifestement, ce danger grave et imminent n'existait pas partout en France. Il y a eu un accident la semaine dernière, bien évidemment, extrêmement grave, mais qui ne peut pas forcément justifier un droit de retrait exercé partout et qui s'assimile en effet à un droit de grève sans préavis. Quel est le problème à la SNCF ? Il faut regarder les choses. La SNCF, c'est une situation financière extrêmement dégradée. On en a déjà beaucoup débattu l'année dernière. 55 milliards d'euros, peut-être un peu plus, de dettes aujourd'hui. Du fait de choix de gouvernement passé, mais du fait aussi d'un système et d'une gestion des ressources humaines pas toujours optimale. Et puis ensuite, c'est une subvention chaque année de 3 milliards d'euros de l'État pour financer le système de retraite de la SNCF. Et donc, l'anxiété qu'éprouve en l'espèce un certain nombre de personnels de cette entreprise publique, les syndicats, c'est une anxiété qui est liée principalement à la réforme des retraites, eh bien débattons de la réforme des retraites et n'utilisons pas le droit de retrait d'une manière un peu détournée.
Vous avez eu le sentiment que c'était un tour de chauffe avant la grande grève annoncée le 5 décembre prochain ?
Oui, peut-être. En tout cas, cette grève en décembre, ce qui est certain, c'est qu'il faut être très attentif à deux choses. D'une part, à maintenir toujours le dialogue avec les organisations syndicales. Il est légitime qu'un secteur d'activité dise son anxiété, dise son inquiétude et peut-être ses attentes à l'égard d'une réforme qui va le concerner. Je précise qu'aujourd'hui, l'État finance 60% des retraites, des pensions de retraite à la SNCF, donc c'est important. Et s'il y a demain un système universel, effectivement, il pourra y avoir une incidence pour ces personnels, donc je comprends qu'il puisse y avoir une inquiétude. Mais deuxièmement, il ne faut pas prendre en otage, ou en tout cas, il ne faut pas créer des blocages, je préfère cette expression, par rapport à la population. Certains partent en week-end, certains partent en vacances, d'autres ont besoin d'emprunter la SNCF simplement pour se rendre au travail ou rentrer chez eux. Ils n'ont pas à être les victimes, en effet, de ce conflit.
Justement, Cédric Villani sera peut-être le prochain maire de Paris s'il est confronté un jour à une grève massive des transports en commun à Paris. Quel doit être le rôle d'un maire quand tous les transports en commun sont bloqués un jour de grève ?
D'abord, le sujet des transports se règle avec la région et avec le gouvernement. Évidemment, ce n'est pas le maire de Paris, fut-il Cédric Villani, et je le souhaite, mais ce n'est pas le maire de Paris seul qui règle ces sujets. Mais, de manière générale, quand vous avez un conflit social, ça se résout toujours par le dialogue, jamais par la violence, jamais par le blocage, jamais pour le boycott. Et ça se résout ensuite au fond. C'est-à-dire que s'il y a des anxiétés, et il y en a, il faut les traiter à leurs racines. C'est pour ça que je vous parle de la réforme des retraites, et c'est pour ça que je ne souhaite pas passer forcément, c'est pas dans notre discussion entre nous, mais je trouve que les débats qui portent sur droit de retrait versus droit de grève, si vous voulez, c'est pas le sujet, toute cette interprétation juridique, le sujet c'est la question de la réforme des retraites, et c'est celle-là qu'il faut traiter. Trouver les bonnes contreparties, mais assurer aussi la justice d'un système qui aujourd'hui n'est pas équitable.
Ryan Nézard, la semaine dernière, la France a connu une importante polémique sur le port du voile. Le président Macron a recadré les choses en appelant à ne pas faire d'amalgame. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique qui est née, je le rappelle, d'une agression verbale de la part d'un élu RN dans un conseil régional visant une accompagnatrice scolaire ?
Vous voulez que je vous dise vraiment mon sentiment ? Souvent dans ces débats, on entend à la radio, on regarde à la télé, des hommes qui donnent leur avis sur la manière dont des femmes devraient ou ne devraient pas s'habiller. On entend d'Éric Zemmour, et tant d'autres, des élus du Front National, s'exprimer sur ce sujet. Moi, je vais vous dire les choses très simplement. Aujourd'hui, il y a la loi de 1905, qui a été maintes et maintes fois d'ailleurs révisée. Aujourd'hui, il y a la Constitution, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un beau texte, il date de 1789. La laïcité, ça devrait être un trésor dans ce pays, pas un motif et un facteur de division. Je rappellerai juste le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, y compris religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Eh bien, tout est dit dans ce texte. et donc appliquons la loi, la Constitution, rien que la loi, rien que la Constitution, et de grâce, épargnons-nous ces débats qui à nouveau divisent la société française à un moment où elle a au contraire besoin probablement d'unité.
La droite souhaite interdire aux accompagnatrices scolaires d'être voilées. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition qui émane d'Éric Ciotti, qui est soutenue d'ailleurs par certains membres de La République En Marche, comme Aurore Berger? Je rappelle que vous êtes membre de La République En Marche.
Écoutez, aujourd'hui, ça ne me semble pas être le débat primordial et essentiel. Si demain, des aliens viennent sur cette planète et voient l'image que l'on donne de notre société, ils se diront, tiens, voilà un enjeu, la transition écologique, voilà un enjeu probablement qui va concerner toutes les générations qui viennent. Les inégalités, la pauvreté, voilà des enjeux qui aujourd'hui travaillent notre société. Est-ce que vraiment c'est le sujet des accompagnatrices scolaires qui doit occuper le temps de nos débats parlementaires ou médiatiques? Là encore, je ne crois pas qu'il y ait urgence, je ne crois pas que ce soit le sujet principal.
Et on ne passera pas plus de temps sur le sujet. Vous êtes venu nous parler de la candidature de Cédric Villani. Alors Cédric Villani veut être maire de Paris. Je me rappelle qu'il a été président du comité de soutien d'Anne Hidalgo lors de la candidature de la maire sortante en 2014. Pour quelles raisons considère-t-il aujourd'hui qu'il ne faut pas réélire la maire sortante? Et pourquoi est-il le plus à même de diriger la capitale française aujourd'hui?
Cédric Villani, comme une majorité de Parisiens, comme votre serviteur au second tour, a voté pour Anne Hidalgo. S'il n'avait pas eu une majorité de voix, en tout cas de conseiller de Paris, elle n'aurait pas été élue. Mais comme une majorité de Parisiens aussi, près de 60%, Cédric Villani est déçu par le bilan d'Anne Hidalgo. Regardez en matière de propreté, regardez en matière de pollution, regardez en matière de logement, je pourrais continuer ainsi. La ville de Paris a été mal gérée. Les bilans des politiques menées par Anne Hidalgo sont négatifs. Et donc face à cela, on pourrait simplement dire, eh bien au fond, tant pis, laissons l'affrontement classique entre la droite et la gauche, faisons en sorte qu'il y ait soit une alternance, j'allais dire, dans le clivage, soit la poursuite de ce qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est le raisonnement classique des partis politiques.
Mais comment expliquez-vous que la ville ait été mal gérée par Anne Hidalgo alors qu'elle avait été considérée comme l'héritière de Bertrand Delanoë, et tout le monde aujourd'hui se reconnaît dans le mandat de Bertrand Delanoë?
Ça, je ne me l'explique pas. Elle a en effet hérité d'une situation. Aujourd'hui, la situation est plus dégradée, la ville est sale. Regardez, on a 30 000 corbeilles de rue qui attirent les rats. On a aujourd'hui 6 000 travaux qui embouteillent la capitale. On a aujourd'hui une dette de la ville de Paris qui a été multipliée par 2 depuis 2012. On a aujourd'hui une situation du mal logement dans Paris. 240 000 personnes qui sont en attente d'un logement social. Et donc cette situation est grave, et face à cette situation, le sentiment que donne l'équipe sortante, c'est finalement une forme de désinvolture. Tout va bien. Nous faisons la promotion de notre bilan. Nous expliquons ce matin encore dans Le Monde que l'on va avoir une gestion saine de la ville de Paris sans simplement parler du bilan qui, lui, est catastrophique. Et donc, si nous voulons changer de gouvernance, si nous voulons véritablement ouvrir une nouvelle page à Paris, cela ne se fera pas dans l'affrontement ou simplement dans le clivage partisan. Il faut écrire une nouvelle page et le faire d'abord avec les Parisiens. C'est ce que nous essayons de faire.
Vous avez parlé de la dette de Paris. Vous qui connaissez bien les chiffres, l'économie, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires à la ville de Paris? Je me souviens que Florence Berthoud avait trouvé dans les comptes de la ville de Paris qu'il y avait 400 personnes rien que pour la communication. Voilà, est-ce qu'il faut réduire un peu la voilure?
Ce que dit Florence Berthoud est juste, je crois que c'est 300 et quelques, mais on est proche de 400. Écoutez, aujourd'hui, 55 000 agents, la ville de Paris est à la fois département, c'est normal qu'il y ait une fonction publique parisienne qui soit importante. La question, c'est moins celle du nombre, c'est celle des missions. Aujourd'hui, on a des services qui manquent de personnel, police municipale qui n'a de police municipale que le nom, un peu plus de 3 000 agents qui n'ont pas forcément pour métier principal d'être les policiers, sont pour certains des gardiens de parc, par exemple. Donc il faudra recruter, il faudra former, il faudra équiper. Ensuite, prenez l'exemple de la propreté. On a aujourd'hui, depuis 2001, des moyens et des effectifs sur la propreté qui ont baissé. Et donc une situation qui s'est dégradée. Face à cela, vous avez probablement d'autres services qui peuvent faire des efforts. On a parlé avec Cédric Villani du respect de la loi et en particulier de l'obligation de temps de travail à 35 heures. Aujourd'hui, cette obligation n'est pas respectée par les services de la ville. On est à 1550 heures par an au lieu de 1607 heures. La Chambre régionale des comptes le pointe régulièrement dans ses audits. Et donc,
personnel de la ville de Paris doit travailler un peu plus longtemps qu'aujourd'hui.
Mais en tout cas, il faudra revoir le statut qui est aujourd'hui dérogatoire. par rapport au statut de la fonction publique territoriale, probablement aller vers des aménagements du temps de travail qui se justifient métier par métier, vous pouvez avoir des horaires de nuit, vous pouvez avoir des horaires décalés, mais pas qui se justifient par principe, notamment sur la question des jours de congé. Ensuite, vous devez avoir un accompagnement renforcé en matière de formation et en matière de revalorisation sur des métiers pénibles. Mais tout ça se discute, et donc nous avons choisi de mettre sur la table, dès le début de la campagne, ces orientations financières et budgétaires, parce qu'on le dit de manière très claire, aujourd'hui, la gestion de Paris n'est plus soutenable, et donc il faut en changer.
La gestion de Paris n'est plus soutenable. Vous parliez tout à l'heure, Ayane Nezar, de la propreté. Est-ce qu'il faut aussi changer les attributions des mairies d'arrondissement? La propreté, c'est du ressort, si j'ai bien compris, de l'hôtel de ville. Alors effectivement, l'hôtel de ville, ça peut être un petit peu loin de certains arrondissements, un peu éloigné. Comment finalement on arrive à rendre une ville plus propre avec finalement une gestion très centralisée de la propreté?
Vous avez raison, sur le sujet de la propreté, il y a deux enjeux. Premier enjeu, c'est l'organisation. On peut faire mieux avec les moyens actuels. Comment? D'abord, en effet, en exerçant la compétence propreté, notamment la définition des plans de propreté, c'est-à-dire où doivent passer les agents, à quelle fréquence, journalière ou hebdomadaire, tous ces sujets-là sont des sujets de proximité. Et donc, il est plus efficace de les confier aux mairies d'arrondissement plutôt qu'à la mairie centrale. Deuxième sujet qui est plus structurant, je dirais, c'est la question de notre production de déchets. On produit aujourd'hui chaque année entre 4 et 5 tonnes de déchets par habitant en France. Évidemment en incluant les déchets industriels. Mais c'est beaucoup trop. Et donc si on veut demain plus de propreté, il faudra de moins produire moins de déchets, recycler davantage, avoir du compostage.
Écologique de programme de Cédric Villani.
Mais aussi économique parce que vous avez toute une filière de valorisation des déchets qui aujourd'hui pourrait être développée.
Mais pour produire moins de déchets, il faut encore qu'il y ait moins d'emballage. Est-ce que le maire de Paris peut... avoir une influence sur les producteurs des hypermarchés, des supermarchés.
Et la puissance publique, elle a un pouvoir d'entraînement, elle a un pouvoir d'initiative, d'impulsion. Aujourd'hui, vous avez 30 millions de repas qui sont servis chaque année dans les cantines scolaires, dans la restauration collective de la ville et dans les EHPAD. On peut déjà, sur ces 30 millions, avoir plus de nourriture durable, c'est-à-dire des circuits courts et du bio, pas forcément à 100%, mais en tout cas approcher de cet objectif. On peut aussi avoir une politique zéro plastique en donnant un horizon que ce soit 2030. Il faudra regarder avec les experts, mais il faut se fixer cette ambition. Et une fois que la puissance publique aura en effet amorcé la pompe, on pourra derrière engager aussi le secteur privé. Et je le dis aussi, c'est une politique qui doit associer les citoyens. Les plans de propreté, par exemple, la remontée vis-à-vis des services de propreté, de tout ce qui ne va pas, des incidents de voirie, des éléments qui sont des déchets qui sont sur la rue, des mégots ou que sais-je, tout cela peut très bien passer par une application, peut très bien passer par une remontée centralisée au niveau de la mairie d'arrondissement pour qu'on implique tout le monde. Et si vous voulez, je préfère Cédric Villani qui dise sur la propreté, il y a des solutions, mais il va falloir travailler tous ensemble, plutôt qu'Anne Hidalgo qui dit, moi la propreté c'est pas mon sujet, c'est de la faute des Parisiens ou des touristes.
Il y a tout de même un problème de civisme. Elle a raison, Anne Hidalgo aussi. On est tous concernés par cette question de la propreté.
Oui, mais quand vous faites de la politique, vous donnez l'exemple. Et donc vous ne pouvez pas être maire de Paris et dire « c'est pas mon sujet, je balaye devant ma porte et je laisse ça aux Parisiens ou aux touristes ». Qu'il y ait un sujet, je dirais, d'éducation à l'impact que ça peut avoir de laisser un mégot, le nombre d'années que ça met à se dégrader, laisser un mégot sur la rue ou encore ne pas recycler ses déchets plastiques, recyclable, bien évidemment, c'est important, cette éducation. Mais ça doit aussi se faire par une efficacité des services de propreté. Et si on a des services publics, ça n'est pas pour que les citoyens assument eux-mêmes ces missions de service public.
Alors, il y a deux candidats, La République En Marche, Benjamin Griveaux, Cédric Villani. Pourquoi a-t-il décidé d'être candidat alors que la commission d'investiture avait choisi Benjamin Griveaux?
Parce qu'il a pensé que c'était ce qui... était attendu par les Parisiens, tout simplement. Quand vous regardez aujourd'hui l'état du débat public à Paris, vous avez une équipe sortante, on vient d'en parler, extrêmement clivante, avec une manière de faire de la politique relativement sectaire. Si vous êtes avec nous ou contre nous. Vous avez ensuite un challenger qui est rejeté aujourd'hui par les Parisiens, pour tout un tas de raisons. On pourra en discuter. Mais c'est un fait. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette candidature, celle de Cédric Villani, il est probable qu'on aurait dû se contenter, se résigner au statu quo. Et donc Cédric Villani, dans cette campagne, c'est le seul qui soit capable d'ouvrir une nouvelle page, c'est le seul qui soit capable de dire sur la métropole, sur les compétences des mairies d'arrondissement, sur la propreté, on vient d'en parler, mais aussi sur plein de sujets, sur l'attractivité de Paris, sur la mixité sociale à Paris, le fait qu'aujourd'hui Paris perd 12 000 personnes chaque année et qu'il y a des arrondissements qui se sont à tel point gentrifiés qu'on n'y croise plus de classe moyenne ou de classe populaire. Aujourd'hui, c'est le seul dans le débat politique parisien à pouvoir porter ces sujets, porter des projets et aller porter avec une coalition large et pas simplement un parti ou un appareil. Et donc c'est la raison pour laquelle il a été candidat, en effet, et si vous voulez, je retrouve dans sa démarche aujourd'hui en 2019, beaucoup de ce que j'ai retrouvé dans mon engagement en 2016.
Vous parlez de coalition large pour Cédric Villani. Vous voulez nous dire que dans son équipe aujourd'hui, il y a des personnalités qui viennent de tous les horizons ?
Mais on a aujourd'hui quelqu'un comme Mathieu Orphelin qui est député proche de Nicolas Hulot, qui a été porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot et qui traite des sujets écologiques. On a aujourd'hui Paola Forteza qui est députée également, qui est chargée de la démocratie locale, qui est une des, je crois qu'elle a été reconnue parmi les 100 figures mondiales sur les sujets de technologie citoyenne. On a aujourd'hui quelqu'un qui vient de la droite jupéiste, quelqu'un qui a fait la campagne d'Hidalgo en 2014. On a parmi nos soutiens quelqu'un qui a été dans des cabinets sous les gouvernements de Nicolas Sarkozy. On en a qui ont été sous les gouvernements de François Hollande. On a plein de personnes, surtout, qui viennent de la société civile, des associations, des ONG. C'est tout cela, Paris. Paris, c'est pas simplement un parti. Paris, c'est pas simplement la gauche contre la droite, l'Est contre l'Ouest, Paris contre la région ou la métropole. Non, c'est toutes ces forces qu'aujourd'hui, il faut rassembler.
Jusqu'à aujourd'hui, l'élection à Paris, c'était effectivement l'Est contre l'Ouest, la droite contre la gauche. Aujourd'hui, pour gagner Paris, il faut trouver finalement une adhésion dans tous les arrondissements, que ce soit dans les arrondissements populaires, que dans les arrondissements, plus privilégiés.
Moi, j'ai grandi dans le 20e. J'habite aujourd'hui à Belleville. Coordonne justement la campagne de Cédric Villani dans le 20e. Et ce soir, on sera en réunion publique dans le 16e. Donc oui, Paris, c'est l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Et je vais vous dire une chose, le maire de Paris, c'est le maire de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. Et donc cette gestion, qui est la gestion actuelle, où quand vous êtes une mairie d'arrondissement d'opposition, vous n'avez pas les budgets d'investissement qui suffisent. Quand vous êtes aujourd'hui au Conseil de Paris, dans l'opposition, vous n'avez pas le même temps de parole, vous avez une restriction par rapport à la manière que vous pouvez exprimer, que ce soit des vœux devant le Conseil de Paris ou que ce soit des remarques sur la transparence budgétaire ou plein d'autres sujets. Cette manière-là de faire de la politique, encore une fois, elle produit de la division, Paris a besoin d'unité.
Ça changera si Cédric Villani est élu. Évidemment, il y aura des maires d'arrondissement qui ne le soutiendront pas. Ils auront un temps de parole honnête, je dirais.
Mais d'abord parce qu'on décentralisera des compétences, parce qu'on veut débureaucratiser l'hôtel de ville et permettre aux maires d'arrondissement. C'est pas de droite ou de gauche la question de la propreté, c'est une question d'efficacité. Quel est le bon endroit où il faut passer ? Quel est le bon matériel à utiliser ? Aujourd'hui, 20-25% du matériel est en panne. Donc vous voyez, on manque d'investissement. Tout cela, ça s'apprécie de manière pragmatique, pas dans le débat idéologique.
Qu'est-ce qu'un bon maire pour vous, Ryan Nézard, et un bon maire de Paris ?
C'est une très bonne question. Écoutez, si on regarde le mandat qui vient, ce sera le mandat des Jeux Olympiques, le mandat où Paris accueillera le Grand Paris Express. Et peut-être, si l'on regarde les experts du GIEC, le dernier mandat sur lequel on pourra agir de manière décisive sur le changement climatique. J'ai envie de dire que le prochain maire de Paris, c'est celui ou celle qui sera capable de projeter la ville en 2030, qui sera capable, face à cette agressivité, cette brutalité qu'on ressent tous dans Paris, le stress, les incivilités, qui sera capable de construire une ville plus douce pour ses habitants, qui sera capable de construire une ville plus ouverte sur le reste de l'Île-de-France et sur le monde, et qui sera capable, enfin, de faire rayonner cette ville à l'international. Paris, c'est une belle et grande capitale. Aujourd'hui, on est fiers d'être parisien, mais on n'a plus ce sentiment de fierté quand on regarde l'état de Paris. Et donc, il faut que tous ensemble, on se retrousse les manches et qu'on ait un projet qui est un projet municipal. Ça n'est pas une élection présidentielle, ça n'est pas une élection idéologique, c'est une élection sur une personnalité et un projet.
L'invité de Pluriel est Ryan Nézard, porte-parole de Cédric Villani, candidat aux élections municipales à Paris. On se retrouve dans quelques instants.
Animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Ryan Nézard, porte-parole de Cédric Villani, candidat aux élections municipales à Paris. Avant la pause, vous nous avez rappelé les enjeux de cette élection municipale, mais vous avez parlé aussi de la personnalité du prochain maire. Est-ce que vous pouvez nous parler de la personnalité de Cédric Villani, qui est un homme politique que les Français ont d'abord connu comme mathématicien, et puis il s'est mué effectivement d'abord en député, qu'on a vu donc dans des émissions de télévision, et puis maintenant candidat à l'élection municipale. On a l'impression quand même que la question de la personnalité va beaucoup jouer dans cette élection, notamment par opposition à son concurrent principal, Benjamin Griveaux.
Cédric Villani, c'est quelqu'un qui a une histoire finalement très parisienne. C'est quelqu'un qui est monté de sa province à Toulon à l'âge de 17 ans pour finir ses études à Paris, qui a rejoint l'école normale. C'est à Paris qu'il est devenu le grand scientifique reconnu dans le monde qu'il est aujourd'hui. C'est à Paris qu'il a gagné la médaille Fields. C'est à Paris qu'il a rencontré tant et tant de personnes qui l'ont accompagné un moment dans son parcours. C'est aussi à Paris qu'il a connu ses premiers engagements publics, politiques. Il a publié en 2012 son livre « Théorème vivant » qui a été à ce moment-là un best-seller et dans lequel il plaidait justement pour faire de la science un outil, un instrument au service des citoyens et pas simplement une discipline, certes d'excellence, mais qui serait cloisonnée finalement dans le monde de la recherche. Et c'est quelqu'un qui ensuite, à partir de 2014, s'est impliqué dans un think tank qui s'appelle Europa Nova sur les questions européennes, qui me sont chères également comme vous le savez, et qui a connu à ce moment-là ses premiers engagements. Il a rencontré Emmanuel Macron en 2014, quand il préparait un colloque à la Sorbonne sur les questions européennes. Et puis, en effet, il a été sollicité en 2017 pour les législatives par La République En Marche, parce que certainement, à ce moment-là, certains se disaient qu'il incarnait cette volonté de faire rentrer la société civile en politique. Donc voilà sa personnalité. Je dirais que c'est quelqu'un qui, au-delà du scientifique que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de vrai. J'ai le sentiment que quand il nous parle en privé, il nous parle de la même manière que le discours qu'il peut tenir en public. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui se donne entier à ce qu'il fait. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ses propositions, mais c'est pas quelqu'un qui joue. Et donc c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, se dit que la ville dont il est tombé amoureux à 17 ans est une ville, on le disait à l'instant, qui est en train de se dévitaliser, qui est aujourd'hui empêchée, et il a envie de transmettre, de donner justement sa force, son expérience, sa capacité de manager aussi à cette ville qui lui a permis d'avoir la liberté et l'émancipation.
Est-ce qu'il faut être bienveillant pour diriger une ville comme Paris ?
En tout cas, pour le faire dans le dialogue et dans la réconciliation, oui. Et c'est pour ça que je vous disais que aujourd'hui, c'est pas simplement le projet de Cédric Villani qui intéresse, me semble-t-il, les Parisiens, c'est aussi sa personnalité. Voilà quelqu'un qui, je l'ai connu comme ça, au moment où il préparait son rapport sur l'intelligence artificielle, au début 2018, a su mettre autour de la table la communauté scientifique, la communauté économique et les politiques. Et puis bien sûr les services administratifs. Et c'est pas toujours facile hein, de faire l'unanimité sur un sujet très complexe, très détaillé, et sur lequel il y a beaucoup de points de vue qui divergent. Mais c'est quelqu'un qui sait rassembler, qui sait faire travailler ensemble des personnes différentes. Et ça, quand vous êtes maire, c'est essentiel.
Le fait que La République En Marche n'ait pas exclu Cédric Villani, cela signifie que le président Macron n'a pas véritablement choisi entre lui et Benjamin Griveaux que le meilleur gagne. C'est un petit peu ça le message du président Macron.
Ça, vous lui demanderez. Je ne peux pas parler pour lui. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, on constate évidemment qu'on n'a pas été exclu. Vous savez, on a participé à la formation de La République En Marche. On avait parlé il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Participer à la formation du programme présidentiel, du programme pour les européennes, et donc d'une certaine manière, c'est aussi notre histoire. On ne va pas la renier. Simplement, parfois, dans une famille, on peut avoir des désaccords. Ce qui importe, c'est de les exprimer de manière honnête et de manière respectueuse, c'est ce qu'on essaie de faire.
Les militants de La République En Marche, ceux qui finalement sont les plus importants sur le terrain pour faire campagne, pour distribuer des tracts, pour faire du porte-à-porte, ils soutiennent globalement Cédric Villani ou plutôt Benjamin Griveaux. J'imagine que ça doit dépendre des arrondissements.
On a aujourd'hui dans tout Paris des comités d'arrondissement qui sont lancés. Pour nos auditeurs, l'élection municipale à Paris en 2020, elle se fera sur 17 arrondissements. Il y a un changement, on n'est plus à 20 arrondissements puisque les 4 premiers ont fusionné, ça s'appellera Paris Centre. Et donc dans ces 17 comités d'arrondissement, on a plus de 3000 militants aujourd'hui qui font la campagne de Cédric Villani. Le week-end dernier encore, nous étions sur les marchés. Nous avons diffusé la lettre de Cédric Villani aux Parisiennes et aux Parisiens, plus de 100 000 exemplaires. Donc aujourd'hui, notre mobilisation de terrain, elle bat son plein. Parmi ces militants, vous avez toute une partie qui était auparavant des marcheurs, qui était auparavant des cadres locaux d'En Marche, des animateurs locaux ou des référents, des personnalités qui avaient pris la parole médiatiquement. Et puis vous avez des personnalités qui ne viennent pas de La République En Marche. Et c'est toute la force de Cédric Villani. C'est quelqu'un qui réconciliait aussi beaucoup de personnes qui étaient déçues ou éloignées de la politique avec l'engagement. Parce qu'elles se disent que là, voilà une équipe, voilà un projet et une personnalité qui conviennent pour nos municipales.
Ryan Nézard, l'un des problèmes numéro un à Paris, c'est le logement. Vous avez rappelé le chiffre des personnes qui attendaient un logement à Paris. Est-ce qu'il faut encadrer davantage les loyers? Est-ce qu'il faut une loi pour éviter la spéculation immobilière? Que peut faire un maire contre la pénurie de logement et contre la spéculation immobilière?
Vous avez raison de prononcer ces deux termes, pénurie et spéculation. Ce sont les deux termes qui aujourd'hui minent le logement à Paris. Sur l'encadrement, il existe. Dans les logements sociaux, vous avez un encadrement. Dans les logements privés, vous en avez un depuis récemment. La question aujourd'hui du prochain maire de Paris, c'est en effet, quand vous avez 240 000 personnes en attente d'un logement social, des prix qui ont dépassé 10 à 11 000 euros le mètre carré à l'achat en moyenne, je dis bien en moyenne, il y a des endroits où c'est bien plus élevé, c'est savoir comment offrir des logements abordables aux Parisiens et aux Parisiennes. Il y a deux réponses. Il y a une première réponse qui ne se situe pas uniquement dans Paris. Aujourd'hui, dire qu'on résoudra tous les problèmes du logement, mais comme de la pollution, de la circulation, uniquement dans Paris intramuros, c'est mentir aux Parisiens. Et donc, nous souhaitons mener des projets avec les 28 communes limitrophes, dans le cadre d'un conseil du Nouveau Paris, en mettant, y compris financièrement, des ressources de la ville de Paris, pour avoir une offre de logement abordable. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand vous traversez le périphérique, vous divisez par 3 ou par 4 la densité de population. Donc, il y a de l'espace où on peut en effet offrir des logements abordables, pas que dans Paris. La deuxième réponse, c'est au cœur même de Paris, on a plus de 200 000 logements qui aujourd'hui sont inoccupés ou vacants. Des résidences secondaires inoccupées, qui ne sont pas louées, des logements vacants qui ne sont même pas meublés, ou des locations touristiques Airbnb. C'est 60 000 logements aujourd'hui à Paris, c'était 5 000 en 2012. Et donc sur ces sujets, là c'est au maire de Paris d'agir. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé une fiscalité plus incitative sur les résidences secondaires inoccupées, pour les remettre sur le marché. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi proposé de réduire la limite de jours pendant lesquels on peut louer sur Airbnb pour qu'on puisse reconquérir un certain nombre de résidences principales dans Paris. Donc vous voyez, c'est cette politique équilibrée. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va résoudre tous les sujets du logement en un seul mandat. C'est pas vrai. Mais en tout cas, on a une volonté et des objectifs qui sont extrêmement clairs.
La complexité avec Airbnb, c'est que vous avez des Parisiens qui, en toute honnêteté, vont louer leur appartement pendant un mois, pendant deux mois. Et puis, vous avez des gens qui en font un véritable business, qui possèdent des dizaines d'appartements dans Paris. On le voit à Venise, à Barcelone. Comment on lutte contre cette vraie spéculation? Puisque là, ce sont des appartements qui sont transformés en hôtels.
Mais l'exemple que vous prenez sur Barcelone est très pertinent. Il y a une étude économique qui est sortie la semaine dernière qui montre qu'à Barcelone, les locations touristiques ont eu un effet inflationniste sur les prix, y compris sur les locations non touristiques, parce que ça tire vers le haut tout le marché. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On a une loi qui, d'ores et déjà, limite à 120 jours par an la durée maximale de location. On pense qu'il faut le réduire. À Amsterdam, à New York, on est à 30 ou 60 jours. Aujourd'hui, les vacances d'été, ça ne dure pas 4 mois, ça dure 2 mois. Le pic de touristes dans Paris, c'est les mois de mai et de juin, donc ça fait 2 mois dans l'année. C'est 2 mois où, en effet, les locations touristiques peuvent venir en renfort des hôtels qui existent déjà pour accueillir les touristes, mais 4 mois, c'est beaucoup. Et puis, j'ajouterai un dernier point. Il y a la loi qui a été votée, mais il y a sa mise en application.
Il faut des agents.
Aujourd'hui, on a un adjoint au logement à la mairie de Paris qui tweete beaucoup sur la campagne de Cédric Villani, mais qui devrait regarder un peu plus ses dossiers. Parce que l'année dernière, il y a eu moins de 100, quelque chose comme 100 amendes qui ont été prononcées pour fraude par rapport à la loi Airbnb. Je pense que ça n'est pas suffisant.
Donc là, vous recruterez des agents pour aller sur le terrain et constater les infractions.
Mais c'est pas que recruter, c'est former. Parce que vous pouvez tout à fait avoir aujourd'hui des agents qui sont à la ville, qui font ces sujets et qui ne sont pas suffisamment formés, ou alors des agents qui voudraient évoluer dans leur carrière et à qui on peut proposer l'évolution sur ce type de fonction. En tout cas, on va avoir un vrai besoin, que ce soit sur la police municipale, que ce soit sur la propreté, que ce soit sur effectivement le contrôle sur Airbnb, un besoin de recrutement et ou de formation, et donc il faudra le financer. Et c'est la raison pour laquelle on a d'abord commencé par annoncer les efforts qu'on voudra faire.
Alors dans quelques semaines, les températures vont baisser à Paris et on pense évidemment aux sans-domicile fixe. Le SAMU social est débordé aujourd'hui. Que préconise Cédric Villani pour mettre à l'abri les SDF ?
Alors la compétence de la ville, elle porte d'abord sur les mineurs isolés étrangers. On en a entre 500 et 1000, ça c'est difficile de quantifier, qui sont aujourd'hui à la rue dans Paris. On ne peut pas dire que ce n'est pas la responsabilité de la ville. Et donc là-dessus, il faudra renforcer l'accompagnement. Il faudra faire en sorte que ces jeunes, d'abord, on puisse évaluer leur état de minorité. Lorsqu'ils sont mineurs, ils ont droit à la prise en charge. Lorsqu'ils ne sont pas mineurs, ils doivent aller sur d'autres structures d'insertion. Et puis deuxièmement, celles et ceux qui sont mineurs, il faut pouvoir, en effet, les prendre en charge. Ensuite, s'agissant, je dirais, des personnes en situation de sans-abri, pour le reste des situations, c'est d'abord une compétence aussi de l'État, et donc il faut l'exercer en bonne intelligence. Sur la porte de la Chapelle, vous avez aujourd'hui une situation humaine qui est dramatique. Des cas de tuberculose qui sont en train de ressurgir en plein cœur de Paris. Vous avez aujourd'hui une situation dans laquelle des demandeurs d'asile, des réfugiés, des sans-abri et parfois des toxicomanes dorment côte à côte.
Vous qui êtes membre de La République En Marche, vous ne pouvez pas nier que là, c'est la responsabilité aussi du gouvernement que vous soutenez.
Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail commun qu'il faudra mener. Parce qu'aujourd'hui, les associations font un travail formidable, elles sont subventionnées par l'État. Peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres modes de financement et peut-être qu'il faut aller plus loin dans l'accompagnement. On a aujourd'hui aussi une situation, il faut le dire franchement, qui est plus dégradée à Paris qu'ailleurs. Alors c'est le fait que Paris, évidemment, c'est la capitale, c'est une grande métropole. Et donc elle attire des formes de précarité parce qu'on se dit que c'est à cet endroit-là qu'on peut trouver des services. Mais il doit aussi y avoir une réflexion sur l'action des services de la ville de Paris. Est-ce que cette action, en lien avec les services de l'État, de la préfecture, en lien avec les associations, est suffisamment performante? La réponse est non. Regardez aujourd'hui les budgets de l'hébergement d'urgence. Ça fait des années et des années que l'État met chaque année 150, 200, 250 millions d'euros supplémentaires. Il faut à un moment donné s'interroger. Est-ce qu'on continue simplement à mettre de l'argent en plus et il le faut? Ou est-ce qu'on s'interroge aussi sur l'utilisation qui en est faite et avec la plus grande efficacité, la plus grande pertinence à retrouver.
Ryan Nézar, Cédric Villani a déclaré qu'il voulait être le premier maire écologiste de Paris. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du recyclage des ordures. Quelles sont les premières mesures qu'il pourrait prendre pour réduire la pollution de l'air et puis pour contribuer à la mesure de la capitale française à la lutte contre le réchauffement climatique?
Des engagements très clairs qu'il a pris. Il y en a un qui m'est cher parce que j'ai grandi Porte de Montreuil, juste à côté du périphérique, j'ai joué au foot là-bas. Et quand vous êtes là-bas, vous respirez un air qui est pollué, particulièrement pollué. Vous avez aujourd'hui dans Paris 9 à 27 mois d'espérance de vie en moins, simplement du fait de l'exposition à la pollution. Donc si nous n'agissons pas aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre les limites en matière de santé publique et d'environnement. Donc que propose Cédric Villani? Un, d'abord sur le périphérique, il y a un certain nombre, notamment au niveau des portes, de sections qu'il faut réaménager. Ça se fera avec les habitants et ça se fera avec de l'investissement, on le prévoit. Deux, il faudra construire davantage de passerelles, probablement doubler le nombre de passerelles pour piétons et pour vélos entre Paris Intramuros et l'approche couronne, pour qu'on puisse avoir une circulation fluidifiée et qu'on puisse avoir finalement le sentiment d'aller de part et d'autre en toute liberté. Troisièmement, s'agissant de la circulation, il faut investir davantage sur les mobilités propres et ça commence par les transports en commun. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de 80% des bus dans Paris, qui roulent avec des énergies fossiles, et donc qui émettent des gaz à effet de serre et des particules fines. Ça, c'est pour ce qui concerne les transports. C'est entre 20 et 25% des gaz à effet de serre. Mais vous avez un autre secteur dont on parle assez peu. L'alimentation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous savez qu'aujourd'hui, un aliment que vous mangez dans Paris a fait en moyenne 660 km avant d'arriver dans votre assiette. Ça aussi, c'est de l'impact sur le climat. Ça aussi, ce sont des gaz à effet de serre. C'est près de 20% des émissions. Et donc, quand on a une politique d'abord dans la restauration collective et dans les cantines scolaires, de passer au circuit court de manière beaucoup plus systématique, d'inciter, parce qu'on a aujourd'hui 450 à 500 exploitations de fruits et légumes en Île-de-France, d'inciter à la valorisation de cette ceinture maraîchère francilienne, d'autres villes, d'autres régions dans le monde l'ont fait, eh bien c'est aussi une politique pour le climat. Et puis enfin, quand on parlait tout à l'heure de réduire la production de déchets, là aussi, c'est une politique climatique, c'est une politique environnementale qui améliore la qualité des eaux, la qualité et l'apaisement du service de l'espace public, pardon, et puis qui enfin permet d'avoir un espace public où vous avez moins de rats, moins de détritus, et donc un air un peu plus respirable.
Alors, est-ce que Cédric Villani va résoudre le problème, je dirais, du vivre ensemble des piétons, des automobilistes, des cyclistes, des gens qui utilisent des trottinettes, car finalement, c'est très difficile aujourd'hui, cette cohabitation. Il y a beaucoup d'incivilités. On a vu qu'à Bordeaux, il y a une personne décédée qui a été percutée par une voiture en trottinette. Comment pacifier l'espace public aussi sur les nouvelles mobilités?
C'est une grande aspiration du XXIe siècle, notamment dans les villes. Parce qu'on va de plus en plus vers un monde où la voiture individuelle recule, et c'est très bien, mais il faut créer des alternatives. On ne peut pas simplement interdire si on n'offre pas des possibilités différentes. Et donc, tout notre projet, celui de Cédric Villani, c'est d'abord de fixer des règles claires sur les trottinettes, pas sur les trottoirs. Les trottinettes, c'est sur la route. Les vélos, pas sur les trottoirs, c'est sur la route. Ensuite, c'est de fixer un objectif sur l'offre d'infrastructures. Aujourd'hui, les pistes cyclables sont loin d'être achevées dans Paris. Le plan vélo annoncé avec tant et tant de communication par la maire sortante Anne Hidalgo, le plan vélo est achevé à moins de 30%. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on puisse circuler partout de manière continue en vélo dans Paris, ça n'est pas vrai. Et puis les pistes cyclables, le tracé, permettez-moi de dire que dans certains cas, c'est assez contestable, et parfois avec des situations dangereuses. Donc ça relève de la mairie de Paris.
Des pistes cyclables pas toujours identifiées, notamment par les piétons, qui risquent aussi de se faire renverser par les vélos.
Exactement. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut repenser ce plan vélo, le penser de manière continue, donc il y aura des investissements à faire là-dessus dès le début du prochain mandat, et le penser aussi avec la métropole. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on circule à vélo dans Paris, alors que vous avez tous les jours des centaines et des centaines de milliers de personnes qui viennent travailler dans Paris et qui auraient besoin de cette continuité avec les communes limitrophes.
Ivry, Montreuil, Clichy, des villes de la petite couronne en vélo, ça c'est difficile aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas de plan vélo à ce niveau-là, de manière continue. Mais en tout cas, si on veut demain accompagner la transition écologique, je dis bien accompagner, c'est-à-dire pas punir, pas interdire, pas être uniquement dans des politiques négatives. Mais si on veut inciter à changer nos modes de transport, aujourd'hui le vélo, c'est autour de 3% seulement des modes de circulation, c'est 16% à Strasbourg, c'est je crois quelque chose comme 50% à Copenhague. Si on veut avancer sur ce sujet, il faut des règles claires et il faut des infrastructures.
Pour revenir à la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce qu'il faut aussi végétaliser davantage Paris à l'image de ce qui a été fait Place de la Nation?
Alors, l'exemple de la Place de la Nation est un bon exemple. Je vous ai promis de parler de manière honnête, sincère. C'est une rénovation qui est satisfaisante. Moi, j'ai, comme je vous le disais, grandi Porte de Montreuil, pas très loin de la Place de la Nation. Donc ça me va très bien ce qui a été fait là-bas. Néanmoins, je regarde les autres places. Je veux dire que la Place de la République ou la Place Gambetta, c'est pas satisfaisant. Pour l'essentiel, on a bitumisé et bétonné. Et donc, ce qu'il faut demain, c'est en effet une végétalisation, mais une politique efficace. Pas simplement des arbres en pot, c'est d'avoir des arbres plantés en pleine terre, et ça a été le cas, je crois, à la Nation. C'est pas le cas aujourd'hui à Gambetta, par exemple, dans le 20e. Cette politique-là, elle suppose pas forcément des investissements mirobolants, mais elle suppose une planification. Elle suppose aussi d'écouter les experts sur le climat, qui nous disent que les propriétés naturelles des arbres sont beaucoup plus pertinentes lorsqu'ils sont plantés en pleine terre, notamment pour fixer les particules fines, que lorsqu'ils sont plantés dans des pots. Et ça, vous savez, ça ne demande pas forcément, là encore, des brevets de droite ou de gauche pour être appliqué.
Dernière question, parlons aussi de la méthode de Cédric Villani pour faire campagne. Il propose notamment à des habitants de le rencontrer dans un café, seul à seul. Donc nos auditeurs, s'ils le souhaitent, peuvent le rencontrer. On apprend plus au contact d'une seule personne qu'au contact d'une salle, d'une foule.
Alors en effet, il fait des déplacements lors de 4 à 5 par semaine, des déplacements de terrain de plusieurs heures dans les arrondissements. On fait des réunions publiques 3 à 4 par semaine. Donc, si vous voulez, cette manière-là d'aller à la rencontre, au contact des habitants, elle est essentielle sur les marchés, en réunion publique, dans les cafés. Mais il y a une chose qui tient beaucoup à Cédric Villani, et j'en termine par là. C'est quelqu'un qui a le sentiment qu'aujourd'hui, on a trop souvent réduit la politique à des nombres, à des statistiques ou à des chiffres. Et peut-être que parfois, certains politiques, j'en fais partie, peuvent avoir ce défaut. Mais lui, c'est quelqu'un qui insiste toujours auprès de nous pour dire « N'oubliez jamais, la politique, c'est d'abord de l'humain. » Et donc, le contact direct, le fait d'entendre pendant, en l'espèce, 1h, 1h30, à l'occasion d'un café, dans un cadre bienveillant, dans un cadre où vous pouvez exprimer vos attentes, vos espoirs, d'entendre le parcours, l'histoire d'une Parisienne ou d'un Parisien chaque samedi matin pendant sa campagne et ensuite pendant son mandat, c'est une manière aussi de faire de la politique qui est à l'image de Cédric Villani.
Samedi dernier, il a rencontré un jeune étudiant marocain, Othman, dont il a parlé sur Twitter.
Exactement. Mais c'est quelqu'un voilà, qui est vraiment attaché au rapport humain, qui pense que la politique, ce n'est pas d'abord des nombres ou des chiffres ou des statistiques, ce sont d'abord des rencontres, ce sont d'abord une forme de brassage de toutes les couches sociales, de toutes les cultures. Et ces rencontres-là, avec une heure et demie d'échange, permettent justement de se nourrir et de nourrir un projet et une vision, demain on l'espère, pour la mairie de Paris.
Merci Ryan Nézard. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Cédric Villani, candidat aux élections municipales à Paris. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.